Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire. Bélux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30. Et le week-end, de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre, 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique, 105.4 FM, à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.
Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue à Radio Free Gaza. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler parce que je vais laisser la place à Ruben qui va parler quasi une demi-heure. Donc Ruben fait partie de Samidoun, le réseau de solidarité avec les prisonniers palestiniens. Bonne écoute. Ruben, est-ce que tu peux te présenter brièvement?
Yes, hi, I'm Ruben from Samidoun.
Je m'appelle Ruben, je suis doctorant à Gand et je m'organise avec Samidoun depuis environ un an.
With Samidoun for a year or so.
Ok, et est-ce que tu peux présenter encore une fois Samidoun? Can you present for us again Samidoun?
Yeah, of course.
Samidoun a été fondé en 2011 et c'est un réseau de solidarité palestinien, arabe et internationaliste pour les prisonniers palestiniens dans les prisons sionistes. Samidoun cherche à obtenir justice pour les prisonniers palestiniens à travers des événements, des activités, des recherches, le partage d'informations, ainsi que pour tisser des liens avec le mouvement des prisonniers en Palestine. En fait, nous cherchons à amplifier les voix des prisonniers palestiniens, des anciens prisonniers, des familles des prisonniers et des militants palestiniens pour la justice et les droits de l'homme.
And Palestinian advocates for justice and human rights by translating, sharing and distributing news, interviews, and materials from Palestine. And as you can imagine, in the recent years, this has also come to extend to the many Palestinian prisoners in American and European prisons.
Okay. Et dernièrement, nous avons appris qu'il y a une nouvelle loi en Israël qui a été votée sur la peine de mort. So lately we heard that there is a new law being voted in Israel on the death penalty. Mm-hmm. Can you tell us more about it?
Yeah, exactly. So the,
je suis ici aujourd'hui pour parler de la loi sur l'exécution qui a été adoptée le 30 mars à la Knesset. Et je veux aborder ce que cette loi impliquera pour les prisonniers palestiniens, mais je veux aussi entrer dans l'histoire plus longue de la détention et des exécutions en Palestine. Pour bien comprendre cette loi sur les exécutions et pour saisir la lutte des prisons et des prisonniers, il est essentiel de voir les prisons et l'incarcération comme la continuation de la guerre par d'autres moyens. C'est simplement pour dire que l'entité sioniste, dans sa colonisation, dans sa guerre contre le peuple palestinien, avec ses alliés coloniaux, a toujours utilisé l'incarcération et l'assassinat comme des outils parallèles d'oppression pour réprimer l'organisation, la résistance et la lutte pour la libération du peuple palestinien. Il est donc important de comprendre que l'exécution n'est pas nouvelle, mais qu'elle poursuit la pratique coloniale et impériale en Palestine, où des dirigeants palestiniens imminents ont été assassinés, soit par exécution lorsqu'ils étaient incarcérés, soit par des assassinats. Un premier exemple s'est produit lors des soulèvements d'Al-Burak en 1929, lorsque la Palestine était encore sous le mandat britannique. Les soulèvements ont commencé lorsque les sionistes ont organisé une manifestation au mur d'Al-Barak ou au mur de Lamentation. La manifestation a rapidement été rencontrée par la résistance palestinienne, ce qui a conduit à l'intervention de l'armée d'occupation britannique, tuant et blessant des centaines de Palestiniens. Après la fin des soulèvements, les autorités du soi-disant mandat britannique ont exécuté 3 dirigeants, Fouad Hijazi, Atta Al-Zir et Mohamed Jamjoun, emprisonnés dans la prison d'Acre. Ce sont trois des premiers dirigeants palestiniens en prison dont nous nous souvenons et que nous commémorons encore. Et c'est très important car le soulèvement d'Al-Burak ont jeté les bases des années de lutte palestinienne à venir. D'une part, ils ont signalé la grande révolte entre 1936 et 1939. Et c'était une réponse directe à la colonisation sioniste qui a commencé sérieusement avec des milliers de colons arrivant pour voler des terres, mettant en place des forces paramilitaires en coordination avec les Britanniques et commençant à contester des lieux saints comme le mur
d'Al-Burak. Kind of laid the foundation of the years of Palestinian struggle to come. On the one hand, it signaled the great revolt between 1936 to 1939, and it was a direct response to the Zionist colonization of Palestine beginning in earnest, you know, with thousands of settlers arriving to steal and settle land, set up paramilitary forces in coordination with the British, and beginning to contest religious landmark such as the Al-Burak Wall. And as we think about execution law today, it's also important that we recognize that from the start, British and Zionist colonization has been met with resistance. There was immediately demonstrations, labor strikes, to, for example, the boycott campaign and military operations begun by Sheikh Izzeddin Al-Qassam in 1921. But also the general uprising between 36 and 39, that was immediately met with repression by the British mandate declaring a martial law, committing hundreds of war crimes. Like one of the most famous ones is the Al-Bazza bus massacre that took place in September 1938, when soldiers of the Royal Ulster Rifles initiated a punitive campaign against Palestinian villages, where they massacred entire families, torching their houses, and in their most brutal act, forced a bus of villagers to drive over a landmine. If people want to learn more about this, I would suggest listeners to read Ghassan Kanafani's The 1936-39 Revolt in Palestine.
Aujourd'hui, il est également important de reconnaître que dès le début, la colonisation britannique et sioniste a été rencontrée par la résistance. Il y a eu immédiatement des manifestations, des grèves et une campagne de boycott et des opérations militaires menées par le cheikh Izzeddin Al-Qassam en 1921, mais aussi le soulèvement général entre 1936 et 1939, qui a immédiatement été rencontré par la répression du mandat britannique, qui a déclaré la loi martiale, qui a commis des centaines de crimes de guerre. L'un des plus célèbres est le massacre du bus d'Al-Bazza, qui a eu lieu en septembre 1938, lorsque des soldats des Royal Ulster Rifles ont mené une campagne punitive contre des villages palestiniens, massacrant leurs familles, incendiant leurs maisons et dans leur acte le plus brutal, forçant un bus de villageois à conduire sur une mine. Donc, si les gens veulent en savoir plus, je suggère aux auditeurs de lire La révolte de 1936-39 en Palestine de Ghassan Kanafani ou de regarder le récent film intitulé Palestine 36. Ou si vous voulez vraiment rentrer dans les détails, il y a un dossier de 300 pages soumis au gouvernement britannique en 2022 qui décrit les crimes de guerre pendant leur mandat en Palestine, y compris les exécutions et les assassinats à l'intérieur et à l'extérieur des prisons. Donc, ça signifie que si nous abordons la loi sur les exécutions aujourd'hui, il est important de le reconnaître car cela nous amène à comprendre que ce que fait cette loi aujourd'hui, c'est d'essayer d'imposer un degré de légitimité sur les pratiques déjà existantes de colonisateurs assassinant les dirigeants de mouvements de libération. Et c'est une tentative d'intimider, d'étrangler le peuple palestinien et sa volonté de résister en introduisant une méthode soi-disant légale d'assassinat. Mais Samidoun est bien sûr d'avis que, tout comme les assassinats répétés des dirigeants révolutionnaires et résistants à travers le monde au fil des décennies ont échoué à réellement étouffer la résistance en Palestine, au Liban ou dans toute la région, nous croyons également que cette oppression sanglante, cette nouvelle loi sur les exécutions, se brisera contre les rochers de la détermination du peuple à libérer sa terre. Mais si je continue, si nous pensons à ce que représente la loi sur les exécutions, je veux mentionner trois points. Le premier est qu'elle représente une intensification de la violence sioniste à l'intérieur des prisons. Nous devons reconnaître que c'est une escalade et une intensification de cela, même si ce n'est rien de nouveau, et que ça continue depuis le flot d'Al-Aqsa, donc les attentats du 7 octobre, où nous avons vu les formes les plus brutales de torture, de violence sexuelle, de torture psychologique et de torture mentale. Oui, et nous sommes toujours aujourd'hui à cet état. Un cessez-feu a été atteint et malgré un grand échange de prisonniers après ça, il y a toujours 9600 prisonniers palestiniens dans les prisons sionistes, dont 350 enfants, 86 femmes et plus de 3500 détenus en détention administrative, dont je parlerai un peu plus tard. Mais c'est essentiellement un emprisonnement sans accusation ni procès, renouvelable indéfiniment. Parmi ces 9600 personnes, il y a au moins 1250 Palestiniens enlevés de Gaza et emprisonnés par l'occupation. Il y a au moins 21 Libanais enlevés du Liban et détenus dans les mêmes prisons. Nous avons des estimations que 89 prisonniers palestiniens identifiés ont été assassinés dans les prisons, mais des associations disent qu'il y en a probablement plus de 100. C'est un chiffre important, car depuis 1967, le total des martyrs dans les prisons est de 326. Nous voyons donc que depuis le début du flot d'Al-Aqsa, donc les assassinats du 7 octobre, la violence à l'intérieur des prisons a augmenté de manière extraordinaire. Et puis, par exemple, nous voyons aussi qu'ils continuent à emprisonner plus de 800 corps de martyrs. Donc, ils ne les rendent pas à leur famille. Ils ne leur permettent pas de pleurer et de les commémorer. Cela représente aussi une intensification dans le sens où c'est ouvertement raciste et fasciste. C'est écrit dans le texte de cette nouvelle loi que ça ne s'applique qu'aux Palestiniens, principalement de Jordanie. Parce que ça utilise des systèmes qui ont initialement été utilisés pour la détention administrative, où les personnes qui seraient pénalisées par la loi sur les exécutions seraient jugées dans les tribunaux militaires dirigés par l'armée sioniste. Donc, en Cisjordanie principalement, mais aussi à Jérusalem et en Palestine et à Gaza, les prisonniers seraient jugés dans les tribunaux civils où ils peuvent être condamnés à vie ou à la peine de mort.
These forms of like the fact that, for example, the executions must be carried out by hanging, making it an explicit form of legalized racist lynching, essentially. The main first point is to see it as an intensification or like a continuation of the intensification of the violence in Zionist prisons. And I also wanted to add, for example, they also have a very clear point that the executions had to happen within 90-day time periods and that they should happen in the framework of, military courts, which also work to expedite legal processes and removing legal accountability and transparency. Because the way these courts work is that essentially there's no burden of proof because it's the Zionist army that presides over them and they can use what they call secret information. So you can have a Palestinian prisoner that is on trial and the lawyer doesn't have access to the evidence that is being used. So it means that there's no, legal accountability or transparency in the process. Which is also interesting we're going to talk a bit more about it later, but when we come to Europe, because we see more and more that Europe inadvertently are trying, using the same standards when they're prosecuting Palestinians in Europe,
il est important de noter que cette loi ignore complètement la violence des colons qui sont légalement exemptes de la loi sur les exécutions. Et elle inclut le fait que, par exemple, les exécutions doivent être menées par pendaison, ce qui en fait une forme explicite de lynchage raciste légalisé. Donc oui, le premier point principal est de le voir comme une intensification, comme une continuation de l'intensification de la violence dans les prisons sionistes. Je veux aussi ajouter que Ils ont un point très clair selon lequel les exécutions doivent avoir lieu dans des périodes de 90 jours et qu'elles doivent se faire dans le cadre de tribunaux militaires, ce qui contribue également à accélérer le processus juridique et à supprimer la responsabilité et la transparence juridique. Parce que la façon dont ces tribunaux fonctionnent est que, essentiellement, il n'y a pas de charge de la preuve, car c'est l'armée sioniste qui les préside et ils peuvent utiliser ce qu'ils appellent des informations secrètes. Donc vous pouvez avoir un prisonnier palestinien en procès et l'avocat n'a pas accès aux preuves utilisées. Cela signifie qu'il n'y a pas de responsabilité ou de transparence juridique dans le processus. Ce qui est intéressant aussi, car quand nous arriverons en Europe, nous voyons de plus en plus qu'en Europe, on essaie d'utiliser les mêmes normes lorsqu'on poursuit des Palestiniens, car il y a essentiellement beaucoup de Palestiniens qui sont détenus ici sur demande de l'entité sioniste. Donc, par exemple, je pense qu'il y a actuellement autour de 8 ou 11 Palestiniens en Allemagne qui sont détenus pour affiliation à Hamas, c'est-à-dire c'est l'accusation. Mais ils ne précisent pas quelles preuves il y a. Quelles sont ces affiliations? Nous voyons donc cet arbitraire arriver ici. Et le deuxième point, à côté de l'intensification de la violence, est aussi que la loi sur l'exécution supprime les possibilités d'échange de prisonniers. Les 90 jours, le délai pour exécuter les prisonniers condamnés à mort est très court. Le mécanisme le plus efficace pour libérer des prisonniers palestiniens, à savoir les échanges de prisonniers avec la résistance, ne fonctionnera donc plus. Et il est clair que c'est aussi une réponse au 7 octobre et une tentative de supprimer les plans et les actions des forces de résistance pour réaliser des échanges de prisonniers. Et oui, je pense que c'est important, car dans le passé, ces échanges de prisonniers ont été l'un des objectifs les plus importants de la lutte. Nous avons vu entre Hezbollah et l'entité sioniste en 2006 des échanges de prisonniers très importants, et entre la Hamas et la bande de Gaza et l'entité sioniste en 2008. Il y a de nouveau eu des échanges de prisonniers très importants. Plus récemment, avec le flot Al-Aqsa, il est devenu clair que l'un des principaux objectifs était de libérer les 10 800 prisonniers d'alors. Ils ont réussi dans de nombreux cas. Ils en ont libéré dans un échange entre les prisonniers détenus à Gaza, les prisonniers sionistes et les prisonniers palestiniens. Je pense que c'était autour de 4 000 prisonniers qui ont été libérés des prisons sionistes à cette occasion. Le troisième et dernier point que nous voulons souligner sur la loi sur les exécutions, c'est qu'elle reconnaît d'une manière ce que nous, Samidoun, avons reconnu dès le début, à savoir que les prisons sont l'un des fronts les plus centraux de la lutte pour la libération en Palestine et que la loi, d'une manière, répond à l'échec que représentent les prisons, ou l'idée d'utiliser les prisons pour capturer la révolution. C'est cette idée d'une prison fixe, régler des problèmes avec une prison, est originaire des États-Unis, où ils voulaient essayer d'équilibrer les assassinats politiques avec le simple enfermement des gens, ce qui signifie que nous voyons, dans les années 80, aux États-Unis, une énorme expansion des prisons et du système carcéral industriel, mais aussi en Palestine de 1967. Plus de 800 000 Palestiniens ont été arrêtés, ce qui représente 20% de toute la population. Et parmi eux, 40% de la population masculine ont été en prison. Juste pour vous montrer qu'une grande partie de la colonisation sioniste a consisté à arrêter quiconque fait quoi que ce soit pour s'opposer à la colonisation. Plutôt que de restreindre le développement de la lutte pour la libération en Palestine, ce que la prison fixe a fait, c'est qu'elle a créé les conditions pour une résistance future. Un exemple est la façon dont les prisonniers palestiniens à l'intérieur des prisons ont transformé leur captivité en moment d'apprentissage et d'éducation. Il y a un article très important en ce moment de Mujama Harakat sur, par exemple, l'université du mouvement de la résistance islamique. Elle s'appelle l'université Youssouf et elle a commencé dans la prison du Negev, puis s'est propagée à travers toute la prison. C'est essentiellement un moyen par lequel des personnes ayant déjà des diplômes en prison venaient les partager avec leurs co-détenus. Et c'était très important pour le développement de la résistance aujourd'hui. Les prisons et l'incarcération sont vues comme un moyen de tuer le mouvement sans avoir à tuer des gens. Nous avons vu que l'inverse se produit. Oui, je veux dire, ils utilisent beaucoup de tortures mentales et psychologiques. Par exemple, après le flot AXA, donc le 7 octobre, beaucoup de prisons ont été complètement coupées du monde extérieur, alors qu'auparavant, elles auraient eu des contacts avec leurs membres de famille, etc. Et ils ont commencé à leur dire que Gaza n'existait plus et des choses comme ça, et à essayer de vraiment les briser. Je suppose qu'éduquer dans ces conditions est aussi un moyen de garder sa santé mentale.
It's a way to try to kill your mind and your imagination and your creativity, and it's one of the most like bare forms I think of oppression. But yeah, it's interesting because it's also like in prisons, which is very important to recognize. It's also like they solve a lot of the issues that we might have internally to the Palestinian resistance movement with the different factions. You know, in prisons. It's clear that whichever faction you come from, there is a unity of fields. There is, you know, your cellmate becomes your brother, regardless if he's from Fatah and you're from Hamas. So for example, to continue on the execution law, it's also to recognize that they have now finally understood that prisons become the staging ground for Palestinian revolutionary leaders. And you know, we have so many Palestinian leaders within the prisons, you know, from Marwan Barghouti to Abdallah Barghouti to Ahmed Sadat, Ibrahim Hamed, Hassan Salameh, Jamal Abul Al-Haya, Mohammed Shreem, Anas Yaradat. You know, we have prominent leaders from every single faction of the Palestinian political landscape. So for us, a key point in the work we do and why this execution law is so important to mobilize is that, you know, we see the prisoners' movement as the compass for the struggle as a whole. And that, you know, the execution law is coming about and it was voted through because the occupation is terrified of the role and the impact of like the development in prisons.
Mm-hmm.
So it's important to say, you know, like also the reason that they refused to release the leaders in any prisoners exchanges, although they promised over and over again in the negotiation rounds for the ceasefire.
En gros, oui, définitivement. Et que la prison fixe d'une certaine manière.
Yeah.
Et vous voyez aussi ça dans la conception de prison sioniste, à la façon dont vous obtenez accès à beaucoup de lumière naturelle. Généralement, les gens ont une heure de lumière par jour. C'est un moyen d'essayer de tuer votre esprit, votre imagination, votre créativité. Et c'est l'une des formes les plus nues, je pense, d'oppression. Mais c'est intéressant car dans ces prisons, ce qui est très important de reconnaître, c'est aussi qu'ils résoutent beaucoup de problèmes que nous pourrions avoir en interne au mouvement de résistance palestinien avec les différentes factions. Dans les prisons, il est clair que peu importe la faction dont vous venez, il y a une unité de terrain. Là-bas, votre co-détenu devient votre frère, peu importe s'il est du Fatah ou si vous êtes du Hamas. Donc, pour continuer, la loi sur les exécutions est aussi pour reconnaître qu'ils ont maintenant enfin compris que les prisons deviennent le terrain de formation des leaders révolutionnaires palestiniens. Et nous avons tellement de leaders palestiniens à l'intérieur des prisons. De Marwan Barghouti, Abdullah Barghouti, Ahmad Saad, Ibrahim Ahmed, Hassan Salameh, Jamal Abu Al-Hadja, Mohammed Shreem, Anas Jaradat. Nous avons des leaders imminents de chaque faction du paysage politique palestinien. Donc pour nous, un point clé dans le travail que nous faisons et pourquoi cette loi sur les exécutions est si importante à mobiliser, c'est que nous voyons le mouvement des prisonniers comme la boussole de la lutte dans son ensemble et que la loi sur les exécutions est en cours. Elle a été votée parce que l'occupation est terrifiée par le rôle et l'impact du développement dans les prisons. Donc il est important de dire aussi que la raison pour laquelle ils refusent de libérer les leaders dans tous les échanges de prisonniers, bien qu'ils aient promis à plusieurs reprises lors des tours de négociation,
And we've seen that most clearly.
C'est aussi
with the repression of,
pas un acte de force, mais de désespoir.
Extending back into Europe and
pour North nous, ce sont les trois points les plus importants. Reconnaître que c'est une intensification et une escalade de la violence, qu'elle supprime les possibilités d'échange de prisonniers et de libération des prisonniers en premier lieu, et que cela cherche à cibler les prisons comme terrain de formation, comme formation des leaders palestiniens.
Next to cases of
mais nous croyons, tout comme ils l'ont pensé lorsqu'ils ont introduit les prisons et l'incarcération sous forme massive, qu'ils briseraient le mouvement, que chaque fois qu'ils essayent une nouvelle forme d'oppression ou modifient une forme d'oppression, ils créent les conditions pour la résistance à l'avenir. Donc, ils ne vaincront pas la résistance. La résistance répondra et se développera sous de nouvelles formes. Mais voilà. Donc, la dernière partie consiste à parler de ce que nous pouvons faire. Et je pense que chaque fois que nous parlons de ça, la chose la plus importante que nous devons d'abord mentionner, c'est du Al-Barak à aujourd'hui, la colonisation sioniste dépend de notre soutien, du soutien de nos États. Ils ne pourraient pas coloniser la Palestine. Il ne serait pas possible de vaincre la résistance palestinienne sans, avant tout, les États-Unis, mais aussi la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, le Canada, l'Allemagne, l'Australie, l'Union européenne dans son ensemble. Il est très clair que nous devons aussi comprendre qu'il y a un transfert. Il n'y a pas seulement une ruissance unique du soutien impérial à la colonisation sioniste, il y a aussi un boomerang. Disons que nous parlons habituellement d'un boomerang colonial. Nous l'avons vu le plus clairement avec la répression du mouvement pro-palestinien s'étendant vers l'Europe et l'Amérique du Nord, non seulement au cours des deux dernières années et demie, mais depuis, par exemple, les Holy Land Five et beaucoup d'activistes de l'intifada étudiante aux États-Unis qui ont été incarcérés, qui sont de quelque manière affiliés au Hamas ou à une organisation de résistance et qui sont donc détenus. En Europe, il est important que nous ayons maintenant Mohamed Hanoun et je pense 8 de ses collègues qui faisaient partie d'une organisation en Italie faisant de la charité et de la collecte de fonds pour Gaza. Ils ont fait un travail incroyable. Ils ont collecté quelque chose comme 8 millions d'euros, donc un soutien matériel très réel. Ils sont maintenant aussi jugés pour terrorisme. Donc, on utilise la même logique. Puis, bien sûr, il y a Anas Yaesh, qui est un homme palestinien en Italie qui a été condamné pour avoir fait partie des brigades Tulkan. Et vous voyez, il y a une étroite collaboration entre l'entité sioniste et le gouvernement italien, car il a été jugé pour un crime supposé, le crime étant de participer à des actions militaires pour libérer sa patrie, un droit internationalement protégé. Mais il a été jugé pour les crimes qu'il a ensuite commis en Palestine.
Do the work where we recognize.
Nous avons des cas comme celui du Comité pour libérer Ali en France, qui est un autre prisonnier palestinien qui a été arbitrairement détenu. Nous avons plusieurs Palestiniens en Allemagne. Et puis, espérons-le, beaucoup de gens connaissent les cas en Belgique, où tout au long de la mobilisation pour la Palestine ici, nous avons eu plusieurs, je pense 11 ou 12 Palestiniens qui ont été détenus. Et ils ont été supposément détenus sous la loi sur l'asile. Mais il est très clair qu'ils ont été ciblés pour leur rôle au sein du mouvement. Ils ont été ciblés car à un moment donné, ils étaient le pilier du mouvement. Ils s'assuraient que nous avions une présence publique tous les jours à la bourse. Donc, que pouvons-nous faire? Nous avons vu beaucoup de choses au cours des deux dernières années et demie. Nous avons vu une augmentation sans précédent du mouvement pro-palestinien, de centaines de milliers de personnes dans la rue, des campements étudiants, l'action directe où des masses de personnes et de travailleurs ont bloqué, perturbé et détruit des fabricants d'armes. Mais bon, il n'y a pas de réponse facile. Nous devons continuer à mobiliser, nous devons continuer notre lutte et notre travail contre le fascisme chez nous, contre la répression ici. Et Samidoun, je pense que pour ce faire, nous avons beaucoup à apprendre du mouvement des prisonniers. Et si nous suivons leurs traces, nous serons victorieux.
Merci
beaucoup, Ruben.
Thank you.
Thank you.
Il y a un petit théâtre ici.
Voilà, c'est la fin de l'émission. À demain.